Bonjour, ici Flafon Zanetti pour les podcasts de garage. Membre en règle de l'UPTQ, on est une belle petite gang, Twitter, Facebook, on a notre page, on a notre compte Twitter. Venez nous suivre, venez vous amuser avec nous. Aujourd'hui, on a fait une séance d'enregistrement, on a enregistré plus qu'un podcast. Ça a duré un peu plus longtemps qu'on avait prévu, puis là, je me ramasse seul avec l'invité des invités. Un intellectuel, un philosophe, quelqu'un qui a tellement de savoir par rapport à son âge. Moi, ça m'impressionne vraiment beaucoup. Quelqu'un qui a un podcast aussi, puis quelqu'un qui est membre de la famille de Radio Pirate. Le seul et l'unique, Frank, le dédomiseur. Salut, Frank.
Salut, man.
Comment ça va?
Ça va très bien, puis merci de me recevoir dans ton garage.
Oui, ben c'est vrai. Aujourd'hui, on est dans le garage.
En plus, il est chauffé pour moi, fait que c'est,
ouais,
c'est un honneur quand même.
Je voulais être sûr que tu sois dans le confort de ton foyer.
Oui.
Tu sais, la haute société des philosophes, je sais qu'ils sont habitués.
Oui, c'est ça, philosopher autour d'un feu. Puis,
le luxe.
Oui, puis... c'est ça, le luxe, puis les flûtes de champagne. Puis, Mais c'est clair que merci pour la présentation élogieuse, malgré que le statut d'intellectuel, ça a souvent été vu comme un... comment je pourrais dire ça? C'est vu d'un mauvais œil par plein de monde, parce que souvent, on associe ça à... c'est un peu vu comme quelqu'un qui pèle des nuages, puis qu'il est un peu efféminé, puis
un intellectuel, c'est vu comme ça,
selon plein de gens, c'est vu un peu de même, tu sais,
dans le dôme,
dans le dôme, puis ça jouit d'un certain prestige pour d'autres personnes, mais pour beaucoup de gens considèrent qu'un intellectuel, c'est pas quelqu'un de normal, puis qui vit pas dans le même monde que les autres, puis c'est quelqu'un qui est dans sa tête, puis qu'il est pas sur le plancher des vaches, comme on dit. Mais tu sais, je veux dire, moi, je suis pas vieux, mais dans ma vie, j'ai plus souvent qu'à mon tour, j'ai travaillé dans des choses manuelles. J'ai travaillé dans une bleuetière quand je demeurais au Lac-Saint-Jean. J'ai travaillé dans des restaurants, j'ai lavé de la vaisselle. Je veux dire, j'ai fait des jobs durs. Puis peut-être que ça fait ce qui me différencie de certains autres intellos ou de personnes qui ont des podcasts plus à contenu d'une certaine manière, parce que eux, des fois là-dedans, il y a des gens ils restaient chez leurs parents, ils n'ont jamais travaillé, puis ils sont rentrés à l'université, puis ils sont rentrés par une porte, puis ils sont sortis par l'autre pour devenir professeurs. Puis finalement, ils n'ont jamais eu de job, si on peut dire. Ils ont juste eu des professions. Donc, ça fait des gens, des fois, qui sont difficiles à suivre. Tu sais, je pense pas qu'un gars, mettons, comme Mathieu Boccoté, c'est quelqu'un qui s'adresse au commun des mortels. Ça s'adresse plus à des gens qui ont déjà un bagage universitaire ou intellectuel, puis qui ont lu un certain nombre de livres. Puis moi, j'essaye, bon an, mal an, de tu sais, je pense que si tu fais l'effort de t'exprimer dans le langage que les gens parlent, tu vas les amener au niveau que tu voudrais les amener. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui fait la différence. S'exprimer comme les gens parlent, c'est ça qui fait que les gens ont tendance à vouloir écouter ce que tu dis, puis pas juste porter attention à lui, on comprend rien quand il parle. Là,
comment tu définis ça, un intellectuel? Est-ce que c'est quelqu'un qui a le nez dans les livres? Est-ce que c'est plus quelqu'un qui est réellement intéressé à apprendre continuellement?
Moi, je pense que... Il y a un philosophe français qui s'appelle Michel Onfray, que j'aime bien, qui lui disait « On est tous philosophes, il y en a juste certains qui le demeurent. » C'est-à-dire que, tu sais, les enfants sont curieux par nature. Ils demandent toujours pourquoi. Ils cherchent à savoir qu'est-ce qui... tu sais, ils demandent le pourquoi des choses. Quand ils sont jeunes, ils sont en mathématiques. Ils veulent savoir pourquoi 2 plus 2, ça fait 4. Les enfants sont très curieux de nature. Souvent, la curiosité est étouffée par les parents ou les professeurs. Tu sais, la fameuse phrase du professeur. Ben oui, on apprend ça parce que c'est dans le programme. Quand tu poses la question « Pourquoi j'apprends ça? » Tu sais, ben, à quoi ça sert? Ben là, c'est dans le programme. On n'a pas le choix. Mais tu sais, il y a un côté là-dedans qui tue une certaine créativité. Puis je pense que tout le monde de nature naît curieux. Puis moi, j'accorde pas du tout d'importance ou pas l'importance que certains accordent à la formation. Moi, j'ai connu des gens dans ma vie qui ont un secondaire 5, puis je considère que c'est des intellectuels. C'est pas parce que tu as fait un doctorat ou que tu étais à l'université que tu es plus un intellectuel que quelqu'un qui a une shop de réparation de transmission ou whatever. Tu sais, je veux dire, c'est... L'intelligence que ça prend pour comprendre comment fonctionne un moteur à explosion, c'est beaucoup plus, ça peut être beaucoup plus élaboré que le fait de comprendre un livre de sociologie écrit par un auteur obscur. Donc, je pense que tout le monde a en lui une certaine fibre intellectuelle, puis il y en a qui est endormi, il y en a qui est éveillé. Puis, tu sais, je pense que l'objectif des podcasts, puis l'objectif de jaser comme on fait aujourd'hui, c'est de si ça peut réveiller à une ou deux personnes en qui ça sommeille, ben ça va être mission accomplie, là.
Donc, selon toi, un intellectuel, c'est de la curiosité. Si tu es très curieux, puis tu aimes apprendre, c'est sûr qu'il faut aimer apprendre. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui veut apprendre, qui veut tout savoir sur tout.
Il faut aimer apprendre, puis il faut aussi avoir une espèce d'attitude fondamentale de jamais prendre pour acquis ce qui nous est donné comme étant une vérité. Moi, je pense que c'est un peu ça qui a
fait... Ça, c'est plus philosophique qu'intellectuel, par exemple.
Oui, mais tu sais, je veux dire, un intellectuel qui ne remet pas en question rien de ce qu'il voit, ça reste quelqu'un qui répète des affaires qu'on y a appris. Puis pour moi, ce n'est pas un intellectuel, c'est juste un perroquet, là. Okay. J'ai connu beaucoup de gens comme ça qui sont à l'université, qui sont en apparence très savants, mais en fait, c'est des gens qui sont des compilateurs de notes de bas de page. Là.
Non, être savant n'est pas synonyme d'être intellectuel.
Non,
mais être curieux, ça va vraiment au niveau d'intellectuel. Est-ce que tu dois être un philosophe pour être un intellectuel ou tu peux être un intellectuel sans être un philosophe?
Bien, après ça, c'est sûr que ta question est bonne, puis ça dépend comment tu définis ce que c'est que la philosophie. Là, il y a des gens qui vont dire la philosophie, c'est parler de philosophie de manière traditionnelle, Platon, Aristote, Descartes, machin. Moi, pour moi, ça, c'est une sorte de philosophie, c'est-à-dire que tu parles de l'histoire des grands penseurs, puis tu réfléchis à un tel a dit ça dans tel contexte, puis c'est important, puis c'est pertinent, puis ceux qui le font, j'ai absolument rien contre ça. Mais moi, je pense que si tu regardes fondamentalement ce que faisaient les philosophes à leur époque, c'est des gens qui se questionnaient sur comment fonctionnent les choses qui les entourent. Ils posaient des questions sur la société. Ils se demandaient, est-ce que c'est juste ou injuste de faire telle ou telle chose? C'est quoi qui est bien ou c'est quoi qui est mal? Si tu prends un philosophe comme Platon, par exemple, qui a vécu à l'époque de la Grèce antique, lui, il se demandait, comment est-ce que devrait être organisée la société la plus juste? T'sais? Puis là, il écrit un livre qui s'appelle « La République ». Puis aujourd'hui, on parle de ça à des jeunes dans des cours de philo, ils ne comprennent pas trop en quoi ça les concerne. Mais c'est juste une manière de montrer que, finalement, un philosophe, c'est quelqu'un qui vit dans un monde puis il questionne ce monde-là puis il se pose des questions à savoir, est-ce que c'est normal que ça fonctionne comme ça? Puis moi, dans une optique contemporaine, je trouve qu'un philosophe qui parle juste des affaires qui ont existé dans le passé, il vit un peu dans le passé, justement. C'est important, le passé, mais ce qui nous importe, si tu veux vraiment être contemporain, il faut que tu te questionnes sur la société dans laquelle tu vis, puis tu poses des questions sur « ouais, OK, nous autres, on est organisés de telle manière. » D'abord la comprendre, puis ensuite se demander « est-ce que c'est de la meilleure manière qu'on fonctionne? Est-ce que c'est actuellement? Ou est-ce que c'est un autre système qu'on pourrait mettre en place ou modifier le système actuel? » Puis c'est un peu ça qui m'a amené, qui m'a attiré au début par Radio Pirate. Parce que, tu sais, au Québec, tu le sais, puis les gens qui écoutent le savent, on vit dans une espèce de consensus. Tu sais, il y a une pensée unique qui, de plus en plus, se répand, puis les gens qui la partagent pas sont écartés, tu sais.
Mais si je t'arrête un peu là-dessus, parce que tu m'as amené quelque chose au niveau de ta philosophie. Dans le début, on parle de... Il y a du monde qui a appris quelque chose, qui le répète. Au niveau des intellectuels. Après ça, ensuite, sur la philosophie, t'es comme pas un intellectuel si t'as appris quelque chose puis tu le répètes. Puis après ça, on parle de philosophie. Puis là, tu me dis, il y a des gens qui vont répéter qu'est-ce qui s'est fait dans le passé. Mais ça, c'est pas un intellectuel, mais c'est pas un philosophe non plus.
Ben,
c'est juste quelqu'un
que...
qui répète.
Oui, ben, c'est-à-dire que si tu prends un autre exemple, tu parles d'un scientifique, mettons, quelqu'un qui ferait des conférences pour expliquer qu'est-ce qu'a découvert Newton pendant la révolution scientifique, tu dirais, ben non, c'est un historien des sciences, c'est pas un scientifique.
OK.
Tu comprends le parallèle.
Ouais, ouais,
donc,
ouais,
pour
ouais.
moi, un philosophe qui passe son temps à dire « Ben oui, mais Emmanuel Kant, en telle année, a dit telle affaire », c'est pas vraiment un philosophe. C'est quelqu'un qui est un historien des idées ou est un historien de la philosophie ou quelqu'un qui s'intéresse simplement à ce sujet-là. Pour moi, un philosophe ou un intellectuel, c'est parce que l'un peut aller avec l'autre, mais n'étant pas forcément la même chose parce que tu pourrais être, mettons, un anthropologue sans, ou être un sociologue ou whatever, c'est juste des disciplines qui, historiquement, sont différentes, mais ça peut être une approche qui est similaire, pareil.
Mais sans que ce soit au niveau de l'étude, je pense que tu peux être un philosophe sans avoir étudié en philosophie.
Oui, exactement, oui. Bien, la preuve, c'est que la plupart des philosophes qui ont existé dans l'histoire, ils n'ont jamais été à l'université. Là.
C'est eux autres qui ont inventé la philosophie.
Bien, c'est ça, ils ont inventé leur approche en leur genre. Puis, tu sais, je veux dire, on dit par exemple, ça nous amènera peut-être sur des choses que tu veux m'enligner, mais on dit par exemple de quelqu'un comme Karl Marx, qui est l'inventeur ou la personne qui a inspiré le plus les mouvements socialistes et communistes du 20e siècle. Mais il n'a jamais été à l'université pour apprendre ce que c'était que le communisme. Ça sort de sa tête, d'une certaine manière.
Donc,
en fonction.
Ça part d'une philosophie.
Ben, c'est ça, ça part d'une approche que lui avait. Il y a eu des maîtres à penser. Il y a eu, en tout cas,
Est-ce que la philosophie est incomprise dans le dôme? Est-ce que... Parce que, tu sais, moi j'ai pas fait de philosophie. J'ai jamais eu un cours de philosophie de ma vie. Moi, j'étais un street smart. J'étais un gars qui a bûché. J'ai fait un million de jobs. J'ai eu des compagnies. J'ai fait toutes sortes d'affaires. Puis, je me suis rendu où est-ce que je suis rendu là aujourd'hui par ma personnalité. Parce que je suis un autodidacte, parce que j'apprends dans ce que je fais. Puis, quand tu croises quelqu'un comme moi ou que tu croises quelqu'un qui a fait un peu de philosophie au cégep, tout ça, il y en a qui ne sont pas philosophes, puis ils ont comme une mauvaise perception de la philosophie. C'est vu comme une gang de rêveurs gauchistes de la société idéale. Est-ce que la philosophie est incomprise dans le dôme ou la philosophie est mal expliquée dans le dôme?
Un peu des deux, je te dirais, est mal comprise parce qu'elle est mal expliquée. Moi-même, la première fois que j'ai été en contact avec ça au cégep, je trouvais que il y avait comme un côté un peu délirant à tout ça parce que, tu sais, souvent, c'est souvent l'opinion que j'en entends souvent par des gens qui me disent « Ah ouais, moi, je me souviens en philo au cégep. » Souvent, ce que j'entends, c'est « Fallait que je dise pareil comme le professeur, sinon oui. Il me faisait couler. »
On entend ça partout.
On entend ça partout, tout le temps. C'est pas forcément faux, mais il y a un problème aussi, probablement là-dedans, de qualité de professeur aussi. Il y a certaines personnes, des fois, tu peux croiser des gens qui ont vraiment aimé ça parce qu'ils ont eu des bons professeurs, mais il y a comme une confusion là-dedans parce que la philosophie, c'est une discipline particulière dans le sens que si, mettons, tu étudies l'histoire, ben tu vas apprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. T'sais, donc là, tu vas étudier, mettons, la Révolution française, tu vas apprendre qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de la Révolution française. Mais la philosophie, le but, c'est pas d'apprendre des choses concrètes, c'est de t'apprendre à réfléchir.
Il y a un de mes amis, moi, qui me disait que c'était comment bâtir un argument.
C'est ça, c'est comment bâtir un argument, mais en amont de ça, avant de bâtir un argument, il faut que tu sois capable dans ta tête de réfléchir.
Ouais.
Donc, puis là, ben, souvent, les gens, c'est vrai qu'il y a des professeurs qui font ça puis qui ont une mauvaise approche pédagogique, mais il y a des gens qui pour eux, quand tu leur dis, ben non, mais ce que tu viens de me dire là, ça se tient pas debout. Pour eux, tu viens de leur dire comment ils devraient, tu sais, qu'est-ce qu'ils devraient penser. Mais en fait, c'est juste de t'indiquer que, tu sais, de dire, par exemple, que quelque chose est vrai parce que, je ne sais pas, moi, à TV, ils l'ont dit. Je ne suis pas en train de te dire que je ne veux pas que tu croies à telle affaire. Je suis juste en train de te dire que c'est pas un bon argument.
Fait qu'au niveau de la philosophie, tu vas déconstruire qu'est-ce qu'ils viennent dire.
Ben, c'est
pour
ça.
Pour rebasser quelque chose.
Ben, c'est ça.
As-tu pensé que peut-être que si la personne a fait ça de même, c'est pas à cause de ce que tu te fais dire des médias, mais c'est parce que lui, il pensait comme de telle ou telle façon.
Bien, c'est ça. Tu apprends un peu là-dedans les rudiments, si on peut dire, de la pensée critique. Là, puis comment, qu'est-ce que c'est, par exemple, comme je viens de le dire, on appelle ça un argument d'autorité. Là, ça veut dire, puis ça, tu entends ça souvent, là, ben là, ça doit être vrai, ils l'ont dit dans le journal. Ça, on appelle ça un argument d'autorité. C'est, dans ma tête, j'ai désigné que le journal, c'est une autorité morale ou politique. Donc, je pense que vu que c'est écrit dans le journal, c'est vrai. Mais en réalité, la vie puis la rigueur, ça ne marche pas de même. Puis on est bien placé pour le savoir au Québec. Là, combien d'affaires qu'on a vues dans les journaux. Puis finalement, tu te dis, ouais, finalement, c'est pas tout à fait ça. Que la réalité, c'est pas tout à fait ça. T'sais.
Le consensus populaire.
Oui, populaire ou médiatique. Là.
Est-ce qu'on manque de philosophes au Québec?
Je ne sais pas si on manque de philosophes comme tel, mais on manque peut-être de gens qui réfléchissent par eux-mêmes. Moi, je pense que c'est surtout ça. Là.
De diversité d'opinion, est-ce qu'il y en a assez?
À mon avis, non. Il n'y a pas assez de diversité d'opinion parce que, comme je disais, les Québécois ont en eux-mêmes, je pense, un espèce de côté consensuel. Là. On le voit quand on va dans des soirées de famille. Là. Ouais. Tout le monde est en désaccord politiquement ou idéologiquement avec quelque chose, mais ça finit tout. Il y a tout le temps ta grand-mère ou je ne sais pas moi, quelqu'un dans ta famille qui finit par dire « Ah, ben tu sais, les goûts, ça se discute pas. » Ou ouais. Quelqu'un qui arrive avec une phrase de consensus de même, puis finalement, c'est la fin de la discussion puis tout le monde s'en va prendre un morceau de gâteau.
Oui, ça c'est... de l'autre côté, beaucoup plus culturel, parce que moi, je le vois dans toutes les familles, c'est ça. Mais quand on commence à argumenter, le meilleur exemple, c'est Donald Trump. C'est, oui. C'est le discours le plus polarisant que tu peux avoir aujourd'hui, c'est sur Donald Trump. Si moi, j'arrive, je te dis, moi, je l'aime. Toi, tu me dis, c'est un trou de cul, c'est un malade, c'est un ça. Ben là, il y a quelqu'un qui arrive à côté et dit, on n'en parle plus, là, arrêtez. Oui, pas de chicane, pas de chicane.
Ben, tu sais, toi, tu dois t'en souvenir parce que t'as 40 ans, mais moi, je m'en souviens aussi. Ça date pas d'hier que c'est de même. Là. T'sais, souvent, on manque de mémoire aussi, mais moi, je me souviens quand moi, j'étais au Cégep, c'était George Bush qui était président des États-Unis, puis c'était peut-être moins pire un peu parce qu'il n'y avait pas de médias sociaux vraiment à l'époque, puis tout, mais on était déjà là-dedans. Là. C'était un malade mental, c'était un démon. Ouais, c'était Son of Satan à journée longue.
Son of Satan, c'était Hitler.
Ouais, c'était Hitler. Ben, je me souviens, il y avait un gars que je connaissais au Cégep, il portait un chandail, puis dessus, tu avais Hitler, Staline, puis George Bush, puis en dessous, c'était marqué « Same fucking asshole ». Tu sais, c'est là tu disais à cette personne-là, est-ce que tu as vraiment réfléchi par toi-même pour émettre, tu sais, je veux dire, après, on peut être républicain, on peut être démocrate, tu peux être... Mais tu sais, de là à dire que George Bush et Hitler, c'est la même chose, tu sais, ça dénote juste soit quelqu'un qui n'a jamais réfléchi à ça, soit quelqu'un qui est carrément malhonnête ou stupide, là. C'est ça, il y a un manque d'éducation là-dedans. Puis tu sais, justement, c'est ça, moi, j'ai pas la prétention d'être ou de dire plus que n'importe qui, mais tu sais, je veux dire, j'essaie juste des fois d'amener un peu un angle différent parce que j'ai une approche des fois un peu différente que des fois les gens, des fois, chacun a sa grille de lecture par rapport à comment fonctionne le monde, puis tout. Puis des fois, moi, je pense que je peux amener peut-être un côté un peu différent, tout ça, mais c'est pas compris nécessairement par tout le monde.
De pas dire que tu détiens la vérité, mais d'amener les choses d'un côté philosophique. Tu as ton podcast, Le Dédomiseur.
Yes.
Un podcast quand même qui a beaucoup de succès. C'est impressionnant. On a parlé des chiffres en privé tantôt. Ton podcast qui est Le Dédomiseur t'amène justement avec ton côté philosophique. Tu nous amènes un côté très éducatif, ça je peux te le dire. Moi, je les ai tous écoutés, Les Dédomiseurs. Tu vas toujours nous amener une partie d'histoire, tu vas parler de musique, tu vas parler d'un livre, mais tu amènes toujours un côté philosophique dans ce que tu fais là. Ça, c'est quand même intéressant. Puis vu que tu t'appelles Le Dédomiseur, mais j'aimerais ça que tu nous expliques le dôme. C'est quoi le dôme?
Ben c'est ça, parce que là, il y a plusieurs...
Qu'est-ce qu'on se fait critiquer? Je m'excuse de te couper, mais on va souvent parler du dôme, nous autres, ça vient un peu de Jeff Fillion, mais on se fait critiquer par rapport à ça. Ah, le dôme, on est des angry white men, racistes.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Ben, on est au complet. Là.
Ben oui, on parlait un peu avant de commencer de ça. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un personnage Twitter ou une vraie personne, mais on parlait de Mme Amelia, qui a fait un podcast avec Alain Bécile puis Gary Price. Elle ne semble pas trop comprendre ce que c'est. Puis ça fait plusieurs fois qu'elle me dit « Je veux que tu me le définisses. » Puis d'abord, je ne suis pas là pour te produire des définitions, premièrement. Pis deuxièmement, d'abord, à la base, le terme vient de Dominique Morin. C'est lui qui, je pense, la première fois l'a prononcé. comme la clique du plateau. Comme, ouais. comme...
Ça venait d'une télésérie qui s'appelait Under the Dome.
Oui, c'est ça. Ça vient d'une télésérie qui s'appelle Under the Dome. Puis il y a un livre aussi qui a été écrit là-dessus. Puis c'est un livre, c'est un roman qui a été écrit par un écrivain que j'oublie le nom, qui s'appelle Countries of the Blind. Puis c'est l'histoire de quelqu'un qui arrive dans... Puis ça a inspiré un peu le film. Je ne sais pas si tu as déjà vu le film avec Joaquin Phoenix, Le Village, The Village.
Non, je ne l'ai pas vu.
Bien, c'est l'histoire de, grosso modo, ça a rapport avec ce livre-là, puis ça a rapport avec la notion de dôme aussi. C'est l'idée que quelqu'un, mettons, arrive dans un village où toutes les gens sont aveugles. Puis toutes les gens là-bas sont habitués de fonctionner ensemble de même manière parce qu'ils sont aveugles. Donc,
ça,
ils ont des...
parlé dans le podcast du Dominique.
C'est ça, j'en ai déjà parlé dans le podcast. Donc, toutes les gens sont habitués de vivre d'une certaine manière. Et puis là, quelqu'un arrive de l'extérieur et fait prendre conscience à ces gens-là qui ne sont pas normales. Dans le fond, eux sont certains que tout le monde est aveugle. Là, c'est là qu'ils réalisent que non, il y a des gens qui voient. Puis là, ils décrivent des couleurs, puis ils disent « Non, mais dans le fond, vous vivez dans un mode artificiel. » Puis le monde, la notion de dôme, ça, c'est une allégorie, là, c'est une métaphore. Il n'existe pas de cloche à gâteau par-dessus le Québec dans lequel on est enfermé. C'est une métaphore, c'est une façon de parler. Mais ce que ça désigne, c'est que, puis on pourrait parler de ça pour chaque société, c'est que chaque collectivité ou chaque société vit selon certains codes culturels, selon certains préjugés, certaines croyances. Bien, ici, on pourrait mettre un fond de religion catholique, un fond de Canadien-Français unilingue,
Je pense que notre dôme ici est réellement relié à la langue.
La langue, bien...
Majoritairement.
La langue est un bon dénominateur commun. Il y a aussi, comme je l'ai dit, un côté judéo-chrétien ou catholique qui est très présent quand même, malgré tout ce qu'on peut dire, parce que notre rapport à l'argent, notre rapport aux relations hommes-femmes pendant très longtemps, tout ça a beaucoup de liens avec notre héritage catholique, la manière dont on a été éduqué, se méfier des gens qui ont de l'argent parce que c'est des escrocs. Tout ça, ça vient de la mentalité catholique.
Oui.
T'sais, donner au prochain, donner au suivant. T'sais, tous les mouvements de gauche qui ont existé au Québec sont tous issus à la base de mouvements catholiques. Là. Les syndicats comme la CSN, ça, au début, c'était des mouvements chrétiens hein, qui voulaient, ils appelaient ça le catholicisme social, t'sais, donner au suivant. Puis aujourd'hui,
tout
c'est
le monde égal.
Tout le monde égal, c'est ça, devant l'éternel, devant Dieu, tout le monde est égal. Puis c'est un genre de mentalité-là. Puis, ben c'est ça, la notion de dôme, c'est une métaphore que je trouvais intelligente. C'est pour ça que je l'ai reprise à mon compte en disant, parce que pour la petite histoire, ceux qui ne connaissent pas mon podcast, je l'ai déjà expliqué même, je pense, à l'épisode 1 que j'ai fait. La raison pour laquelle j'ai pris ce nom-là ou cette métaphore-là, c'est que quand j'étais, la première fois que j'étais à Radio Pirate, j'avais été invité pour parler de décroissance là-bas. Puis Jeff Fillion était comme démoralisé et disait « Je ne sais pas si ça sert à quelque chose qu'on fait. C'est décourageant. Des fois, on dirait qu'on répète les mêmes affaires et les gens ne comprennent rien. » Puis là, j'avais dit, ça m'était sorti de même, j'avais dit « Ben ça sert à quoi? Parce que tu dédomises le monde. » C'est là que j'avais comme inventé le mot qui n'existait pas, qui n'avait jamais prononcé à ce moment-là. Ça m'était sorti de même. Puis là, ben, c'était comme resté après ça que c'était mon surnom. T'sais. Puis je trouvais que la métaphore était bonne parce que le but, c'est juste de des fois, faire prendre conscience, c'est juste de faire un déclic qui fait que, ben regarde, au Québec, on a certains préjugés, certains préconçus, et voici pourquoi ils sont faux. Puis là, on pourrait parler de... Tu sais, ça peut être sur... J'ai essayé de le décliner en plusieurs termes. T'sais, à un moment donné, j'ai fait un podcast avec Marco sur la péréquation, où j'expliquais que, ben, tu sais, contrairement à tout ce qu'on pense au Québec, on ne fait pas vivre les autres provinces, puis on n'est pas exploité par tout le monde, mais bien au contraire, on est une des provinces les plus économiquement qui tire le plus de la patte par rapport aux autres, qu'on vit grâce à un certain montant d'argent qui nous est fourni par la cotisation des autres provinces, etc. Après ça, j'ai parlé de plusieurs termes comme ça.
Dédomiser, c'est une ouverture sur le monde puis une compréhension du monde.
C'est ça, mais c'est une compréhension de... C'est comme un peu une genre, j'aurais pu appeler ça la psychanalyse du Québec. Ou
la psychanalyse du Québec. Dédomiser, c'est une psychanalyse du Québec ou c'est plus, écoute, qu'est-ce que je vais te dire... Puis fais-toi une idée. Tu as le droit de rester dans ton dôme, puis dans ton lit le matin, dans tes couvertes chaudes que tu ne veux pas sortir. Tu as le droit de rester dans tes couvertes ou tu peux te désabrier, te lever debout, puis dire « OK, j'ai envie de comprendre puis de m'en aller ailleurs. »
C'est ça. Puis dans un autre podcast que j'avais fait, une année que j'avais appelé « La caverne », je parlais justement, j'essayais avec l'approche philosophique montrer comment tu peux parler de très vieilles affaires à des gens, à des jeunes, mettons que tu es au cégep, puis le raccrocher à quelque chose de moderne. T'sais, l'allégorie de la caverne, c'est une vieille métaphore qu'avait inventée Platon dans un livre.
Le feu au milieu de la caverne.
Le feu au milieu de la caverne. Oui. Ben, lui, il raconte là-dedans que les gens sont enfermés. Imaginons que vous avez des gens qui sont enfermés dans une caverne. Pis il y a un feu qui brûle en arrière d'eux. Puis ils voient des ombres projetées sur un mur. Ben, là, eux autres, ils ne sont jamais sortis. Ils ne savent pas que le monde extérieur. Tout. Donc, ils sont sûrs que ce qu'ils voient, les ombres, c'est des vrais êtres humains ou c'est des vraies entités, des dieux. Ils leur donnent même des noms. Mais un jour, ils sortent de la caverne pour une raison ou une autre. Quelqu'un les amène à sortir. Puis là, ils se rendent compte que, finalement, il existe autre chose sur Terre que leur petite situation d'enfermer comme ça. Bien, moi, je trouvais que c'était une excellente métaphore. On pourrait parler des Nord-Coréens qui, d'une certaine manière, vivent dans un dôme ou une caverne. Mais moi, je l'amenais aux côtés du Québec parce que je me disais, tu sais, ici, on vit dans un certain nombre de choses. On parlait hors d'onde.
Notre caverne, c'est notre zone de confort.
Notre caverne, c'est notre zone de confort, notre unilinguisme qui rentre là-dedans, comme on l'a dit, notre côté catholique, notre côté social, voire socialiste jusqu'à certains égards. Il y a tout ce côté-là. Donc, le dôme, c'est une métaphore pour illustrer notre condition, finalement. T'sais, puis, d'une certaine manière, moi, je me disais, ben, tu sais, il y a plein de choses qui arrivent présentement dans le monde qui font craquer ce dôme-là, tu sais, l'arrivée d'Uber, l'arrivée d'Airbnb, l'arrivée de Spotify, tout ça, c'est des choses qui viennent
briser notre zone de confort.
Ça vient briser notre zone. Ben, nous autres, on est habitués qu'un artiste un peu tout croche enregistre un album de rigodon, puis qu'on puisse faire jouer ça à la radio, puis que ça devienne un album qui se vend. Alors que dans un contexte mondial où les gens ont accès à Van Halen, puis tout ce que tu veux à Post Malone sur Spotify, ben, ils ne peuvent pas acheter ça puis considérer que ils sont plus juste enfermés dans un monde où il y avait 2-3 séries de télé, 2-3 artistes. Puis
3 postes. Ouais.
3 postes, puis tout ça. Donc, c'est notre Jerry parle souvent de ça là, quand on dit on est coussiné. Ouais. Ben, le dôme, c'est ce qui a coussiné les Québécois pendant longtemps. Donc, on est dans un petit monde entre nous. Tout le monde est blanc, tout le monde parle français, tout le monde est catholique. Puis là, un jour, tu te rends compte que, ah, coudonc, il y a des gens d'une couleur de peau différente.
Donc le dôme est raciste, xénophobe et très, très fermé sur lui-même, dans le fond. Le dôme est...
Ben moi, je dirais plus que c'est de la... À certains égards, c'est de la xénophobie. Parce que pour moi, quelqu'un qui est raciste, c'est quelqu'un qui volontairement est dans une haine des autres.
Ouais, t'sais, mais t'sais, bon,
pour moi, quelqu'un qui est raciste, c'est quelqu'un qui dit « ben moi, j'aime pas les Noirs ou les Arabes à cause de telle et telle affaire », puis que consciemment, il sait que c'est mal de faire ça. Pour moi, il y a une différence entre ça puis quelqu'un qui a été, comme par exemple dans ma région natale, il n'y en avait pas beaucoup des gens qui venaient d'ailleurs, puis c'est compréhensible que quand tu n'as jamais été mis en... quand tu n'as jamais vu de ta vie... De japonais ou de thaïlandais.
Là, ça va être de la xénophobie.
Pour moi, ça, c'est plus de la xénophobie de dire « Ouais, c'est une peur de l'autre, une peur de l'inconnu. Ouais. » Comme
pour... Ils vont tourner voler nos jobs.
Ben, c'est ça. Ben, pour moi...
Ils pensent-tu comme nous autres? Ils s'habillent-tu comme nous autres? Mangent-tu la même affaire? Ça sent quoi chez eux? Ils se lèvent-tu, eux autres?
Ouais, ils se lèvent, c'est ça. Mais pour moi, ça désigne... À la base de ça, il y a le même sentiment que quelqu'un qui a peur d'Internet ou quelqu'un qui a peur des nouvelles technologies ou quelqu'un qui a peur de... Que sa vie soit complètement chamboulée parce que...
Xénophobie, raciste est très, très proche.
Oui, c'est très proche.
Ça peut être dur à distinguer même à ce niveau-là. Le racisme s'étendrait aussi sur plus grand. La peur des Anglais, non, c'est pas du racisme parce qu'ils sont pas... mettons que c'est un anglophone blanc hétérosexuel. Tu n'auras pas de raciste, tu n'auras pas de sexiste, tu n'auras pas de rien, mais tu le détestes parce que c'est un Anglais. C'est une forme de racisme quand même.
Oui, c'est une forme de... Mais c'est parce que la fin aussi, c'est que ces concepts-là sont difficiles à utiliser aujourd'hui parce qu'ils ont tellement été galvaudés.
Ils ont été brûlés.
Moi, ben, comme islamophobie, comme tout ça. Parce que, ouais. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a des gens qui sont islamophobes, qui détestent les musulmans, puis que selon moi, ils les détestent parce que fondamentalement, souvent, ce sont des Arabes, là, donc physiquement, ils ne sont pas pareils à eux.
Ouais.
Mais à la base...
Donc, c'est plus du racisme.
Donc, pour moi, c'est plus une forme de racisme camouflé. Mais souvent, j'utilise pas ces mots-là dans mon analyse des faits parce que je me dis, c'est des mots qui ont tellement été galvaudés, puis ça veut... T'sais, c'est rendu que ça s'applique maintenant à quelqu'un qui dit « Hey, j'ai lu le Coran, c'est bizarre ce qu'ils disent là-dessus. » Ils vont dire « Ben, t'es islamophobe. » Ben là, maintenant, attendez, on a le droit aussi de critiquer des religions. Là,
oui.
Donc, maintenant, t'sais, je comprends qu'il y a des gens qui se cachent derrière ça pour avoir des propos assez étranges. Mais à un moment donné aussi...
Mais ça devient un raccourci intellectuel, Frank. C'est super facile de voir quelqu'un qui critique l'islam et dire qu'il est islamophobe. C'est
exact.
Vraiment facile de dire à quelqu'un « Faut contrôler l'immigration pour avantager notre pays. Mm-hmm. »« Hey, t'es un raciste. Je suis pas raciste. C'est un avantage économique que je veux. Je peux-tu choisir les meilleurs? Je peux-tu faire avancer ma société? » Oui, nous autres, on fait partie des sociétés riches. Puis on a une occasion ou une chance inouïe de pouvoir aider les gens.
Mm-hmm.
Un réfugié politique, c'est pas la même chose qu'un immigrant illégal. Un réfugié politique, c'est pas la même chose que juste l'immigration totale.
Ouais.
Si t'es dans un pays de cul, t'es dans la merde, venez-vous-en ici. J'ai même déjà pensé, moi, adopter des enfants parce que ça me faisait de la peine de voir qu'est-ce qui se passait dans d'autres pays.
Ah, t'as raison. Puis ça fait le pont un peu avec ce dont on parlait avant, l'absence d'esprit critique puis le fait de penser par soi-même. Il y a beaucoup d'amalgames qui sont faites, notamment par les journalistes, notamment par certains médias, qui essayent toujours d'associer des propos à un arrière-pensée qui n'existe pas nécessairement. C'est comme là, par exemple, au moment où on parle, ça sera peut-être plus d'actualité quand les gens vont écouter, mais au moment où on parle, il y a encore la crise des gens qui bloquent les voies de chemin de fer de Via Rail puis du CN puis tout ça au travers du Canada. Bien là, c'est rendu que pour certaines personnes, le fait de dire que ça, c'est pas normal parce que c'est illégal, ça fait de toi quelqu'un qui est raciste envers les Autochtones, envers les minorités visibles.
C'est pour ça que le gouvernement fait absolument rien.
Exactement.
Parce qu'ils se disent, si on les tasse de là, on est raciste. Automatique.
C'est ça. Mais tu sais, je pense que.
Est-ce que raciste n'est pas en train de perdre sa saveur, justement?
Bien, c'est en train de perdre
ça. On donne tellement toutes les sauces, on s'en va tellement partout avec le racisme. Aussitôt que tu as. Moi, j'irais beaucoup plus avec la xénophobie, mais aussitôt que tu as peur un peu de. Mettons, moi, je reste à Sainte-Marie-de-Beauce. Mon voisin met sa maison à vendre, puis c'est un couple de musulmans qui achète la maison à côté. Bien, le domien moyen, parce que quand on parle de ton podcast, le dédomiseur, c'est ou l'ouverture
oui,
aux
ça.
Gens, le dédomiseur va passer pour un raciste quand en réalité, ton discours est 100% le contraire de ça.
Non, exact.
Moi, je suis dans mon petit dôme, j'ai mon voisin musulman que sa femme est voilée, imagine. Là, je pars de loin, je suis à Sainte-Marie. Il arrive, il emménage à côté de chez nous. Le Québécois moyen, le domisé,
oui.
va dire... Oh my God, check-moi l'autre, je le frapperai, c'est quoi? Là, ils vont garder ma femme en bikini, sa femme à lui est habillée, nanana. Puis, mais jamais sans être capable de m'en aller dire hey, bonjour, bienvenue dans mon voisinage, puis d'apprendre à le connaître. Tu as beaucoup de xénophobie qui va paraître comme un raciste. Puis xénophobe, en réalité, c'est. En tout cas, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est moins grave que raciste. Raciste, c'est grave.
Oui.
Raciste, c'est penser qu'une race est inférieure à toi, ce qui est tout à fait faux. En dessous de la peau, on est tous pareils. Tout le monde. Il n'y a aucune différence. La xénophobie s'explique bien au niveau de la société et de l'endroit
oui,
où est-ce que t'es. On peut parler dans l'histoire, tu sais, comment que c'était à l'époque, comment que c'est aujourd'hui. Puis mon voisin, ben, du côté xénophobe, Le domisé va se dire « Oh, hey, le musulman vient d'emménager à côté de chez nous. Je pourrais plus faire cuire de porc sur mon barbecue. »
Oui, c'est ça.
« Je pourrais plus écouter de musique le samedi après-midi dehors. »
Oui, c'est ça.
Sans même avoir essayé d'aller parler avec lui. Puis quand
oui,
il va jaser
le temps
avec, peut-être que c'est son voisin musulman qui va se mettre de la musique le samedi après-midi.
Oui, c'est ça. C'est clair qu'il y a un côté là-dedans qui est... C'est de la méconnaissance de l'autre, mais moi, ça, je l'excuse. Je veux dire, le problème, c'est quand tu as passé cette barrière-là, si tu restes avec tes idées de base, c'est là que ça devient un problème.
Hein. Ouais.
Je pense que à un moment donné, l'ouverture à l'autre fait en sorte que maintenant, tu passes par-dessus certaines affaires, puis que à la limite, des fois, tu peux avoir des différences avec les autres, mais comme avec n'importe qui. Là, je veux dire, tu peux croiser quelqu'un que c'est un Canadien français d'origine pure laine, comme les péquistes disaient, puis je veux dire, il va te tomber ses nerfs pas mal plus que ton voisin, que c'est un immigré camerounais.
Ouais.
C'est, pis,
viens du Cameroun, puis tu jases avec, puis tu te rends compte que vous pensez pareil. Tout d'un coup, tout s'efface.
Tout s'efface.
La xénophobie va disparaître. C'est facile d'enlever de la xénophobie quand tu apprends à connaître l'autre.
C'est ça.
Le racisme, c'est ancré dans toi. Non, il n'y a rien ça, à faire avec un racisme.
Non, non, c'est ancré. Puis, mais tu sais, en même temps qu'on parle, ça me fait réfléchir au fait que une autre manière aussi de définir le podcast que je fais, puis l'approche que j'essaie d'avoir, c'est essayer de comprendre les notions qu'on utilise dans notre langage, comme ça, tu sais, racisme, antiracisme, droite, gauche. C'est un travail que j'essaie de faire là-dessus parce que on s'exprime avec des mots, on s'exprime avec des concepts, puis leur définition nous a été donnée ou nous a été appris par l'école, par les médias, par des intellectuels X, Y, Z. Puis souvent, on les utilise, selon moi, d'une mauvaise façon. Puis ça fait en sorte qu'on stigmatise des débats ou on empêche de parler à certaines personnes pour des raisons complètement... qui viennent du fait qu'on maîtrise mal les notions qu'on emploie. Puis, tu sais, on parlait, on disait dans une autre conversation que, tu sais, nous autres, on s'identifie plus comme des gars de droite parce que, puis tu sais, pour moi, tout ça, c'est très simple. Ça renvoie à la liberté individuelle. Tu sais, je lisais un livre à un moment donné d'un libertarien américain qui s'appelle Murray Rothbard, qui était professeur à Harvard. Puis lui, il disait, en réalité, vous avez une seule question fondamentale à vous poser. Puis c'est, imaginez le pire des mondes possibles. Dans ce pire des mondes-là, vous avez deux choix. Est-ce que vous trouvez ça pire de vivre dans un monde où vous êtes libre, mais que vous pouvez courir à certains dangers, dans le sens qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas rien, donc vous pouvez être libre, mais il faut que tu t'arranges par toi-même. Est-ce que c'est ça le monde le pire que tu peux imaginer, ou est-ce que c'est un monde où tu es totalement esclave d'un gouvernement, où il est partout dans ta vie, puis tu n'as absolument aucune liberté individuelle? Et si tu choisis la liberté, puis tu es prêt à vivre avec les dangers, c'est ça l'esprit libertarien. Si tu choisis l'autre, ben c'est que tu es un socialiste fondamentalement au fond de toi. Mais en réalité, c'est juste ça la question fondamentale qui définit pour moi l'axe gauche-droite. Mais les gens mêlent à ça racisme, mêlent à ça avortement, puis tout ce que tu veux. Puis je m'en rends compte quand je parle avec des gens autour de moi, que ce soit ma blonde, que ce soit sa famille ou whatever. Les gens, pour eux autres, dans leur tête, quand tu dis droite, eux autres imaginent un gars un peu coincé en complet cravate qui est contre l'avortement.
Ouais.
Mais tu te dis, mais tu sais...
Un homme blanc, hétéro, qui trompe sa femme avec sa secrétaire.
Ouais, c'est ça.
Qui est très fermé sur la planète.
C'est ça.
Lui, il a un seul focus, puis c'est le profit.
Oui, puis alors que moi, ce que je dis aux gens, c'est que souvent, ce gars-là, il y a des bonnes chances qu'il ait voté Parti québécois toute sa vie. Là.
Probablement, oui.
Tu sais, ou Bloc québécois, ou Parti libéral.
Je t'amène, c'est drôle parce que tout ce que tu viens de m'expliquer là, c'est un parallèle facile ou niaiseux que je pourrais dire, mais ça me fait penser à The Walking Dead, la télésérie. Mm-hmm. The Walking Dead, à un moment donné, ils se forment des clans. Puis ceux qui veulent que tout le monde soit égal, ils vont en mourir. Parce que la nature humaine est en sorte qu'il y a toujours des caractères plus forts. Il y a un instinct de survie, il y a un instinct de guerrier. Moi, je travaille pour une entreprise américaine. Qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y en a qui ont l'instinct de killer, puis il y en a d'autres qui veulent juste être complaisant bien dans le travail. Complaisant bien dans ton travail, tu meurs. Tu vas perdre ta job, tu n'auras pas de croissance, tu n'auras rien. Puis quand tu as l'instinct de tueur, il n'y a rien qui va t'arrêter. Puis dans le dôme, on ne s'est pas fait enseigner l'instinct du tueur. On ne s'est pas fait apporter à vouloir plus. Mm-hmm. On s'est fait juste apporter à arrange-toi pour être bien, puis sois complaisant sur ce que tu as, sois heureux. Tu en as beaucoup, tu es bien, toi. Puis ça fait que aussitôt qu'on veut dédommager quelqu'un pour dire non, on sort de ta complaisance, puis viens vivre une expérience, viens voir c'est quoi la vie. Ton potentiel est illimité. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux.
Ou va juste parler avec la personne que tu considères qui n'a pas les mêmes idées que toi. Fais juste lui parler.
Ouais.
Moi, j'ai une assez bonne compréhension de comment fonctionnent les gens de gauche dans leur tête parce que je les ai côtoyés toute ma vie.
Ouais, c'est philosophe.
C'est ça, c'est ce qui fait que je les comprends d'une certaine manière, mais que je sais qu'eux ne comprennent pas. T'sais, pour eux autres, mettons, dans leur tête, quelqu'un que tu lui dis qui écoute choix, c'est un gars qui a un pick-up et qui verse du gaz sur son feu puis qui brûle des pneus puis qui est raciste. Là, tu leur dis, mais est-ce que tu connais des gens comme ça? Trouve-moi quelqu'un de même, puis je veux dire... ce préjugé-là est aussi stupide puis aussi réducteur qu'à l'opposé, la personne qui est de droite qui dit ben, moi, le monde qui ont voté pour le PQ, je pense que c'est tous des granos. Pas nécessairement les gens.
Toutes des daumiens.
C'est ça, mais tu sais.
Dans le fond, c'est pas mieux de dire que vous êtes tous des daumiens parce que vous avez voté pour le PQ.
Non, mais tu sais.
De dire que vous êtes tous des racistes parce que vous avez voté pour le Parti conservateur.
Ben, c'est
un,
ça.
Un n'est pas mieux.
Ben, tu sais, moi, je me rends compte avec le temps que les gens, ils ont vraiment des. Ils ont vraiment une compréhension très limitée, souvent, de pourquoi ils font pourquoi ils choisissent un parti plutôt qu'un autre. Tu sais, souvent, ils vont le faire pour une raison bien précise, ou encore, comme c'est le cas dans certaines régions, ils vont voter pour le gars parce qu'il a déjà été maire de la place.
C'est 99 % du vote daumien. Et pour la personne.
Et pour la personne.
C'est l'image. On a voté au Québec massivement pour le NPD parce que Jack Layton avait de l'air fin.
Oui, Jack Layton qui avait crié pendant le but de Plekanec, je sais plus trop quoi.
C'est que de l'émotion. On déteste Donald Trump parce qu'on n'aime pas sa personnalité. Pas parce qu'on n'aime pas qu'est-ce qu'il fait.
Mais ils ne savent pas ce qu'il fait.
Personne ne sait qu'est-ce qu'il fait. Les médias le cachent très bien. Mais c'est vu que c'est un bully, tu sais, c'est un. Le gars, il a l'instinct du tueur. Fait que quand il rentre à quelque part, il va faire mourir toutes les idées différentes des siennes, il va faire passer ses idées. Puis ça, dans l'esprit de la gauche, c'est ah, il est pas fin, il est mauvais. À moins que tu sois de la gauche. Là, tu es fin puis tu fais partie de la bonne gang.
Bon, c'est sûr qu'il y a un deux poids, deux mesures là-dedans qui me paraît quand même. Évident, tu as raison.
Mais ça m'amène au sujet principal que je voulais vraiment apporter dans le podcast avec toi. Ça fait plusieurs fois qu'on remet le podcast, ça fait plusieurs fois qu'on veut se rencontrer.
Oui, c'est ça. Il y avait des petits problèmes d'horaire. Des fois, la dernière fois, c'était la journée de ma fête. Là. Je me voyais assez mal dire à ma blonde, tu fêteras ma fête tout seul.
C'est faut que ça. Faire là, nous autres, on t'a critiqué, podcasts. On t'a dit, tu sais, tes priorités, là, les podcasts, ouais, c'est important, Frank. Mettons, faire sa part. Je m'en viens vraiment. Moi, je trouve qu'au Québec, le capitaliste est méconnu. Le capitaliste est vu comme étant l'ennemi numéro un de la société mondiale. Le capitaliste, c'est les Américains sont capitalistes, ils n'ont pas de système de santé, le monde meurt dans les rues. Le capitaliste, c'est juste du profit, il se fout du monde. Le capitaliste ci, le capitaliste ça, c'est tellement démonisé, c'est tellement vu comme l'ennemi de la planète. Puis moi, je me dis, voyons donc, ça se peut pas. Le monde ne savent pas c'est quoi réellement le capitaliste. Parce que le capitaliste, il n'en veut pas de pauvres. Ils ne veulent pas profiter d'un ou de l'autre. Ils veulent que tout le monde soit riche parce que moi, j'ai de quoi à vendre. Puis si toi, tu es riche, tu vas me l'acheter. Si t'es pauvre, tu pourras pas me l'acheter, je pourrais pas rien vendre. Je veux pas abuser de toi. Je vais donner des salaires à mon monde. Je vais donner des conditions à mon monde. Plus que l'économie est forte, plus que le monde a du travail, plus que le monde a du travail, moins qu'il y a de main-d'œuvre, moins qu'il y a de main-d'œuvre, plus qu'on a besoin de technologie. Plus qu'on, tu sais, le capitalisme nous apporte à avancer, selon moi, encore là, une fois. Mais je trouve qu'il est mal expliqué, puis j'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi le capitalisme. Parce qu'on a fait le tour, là, la gauche, les communistes, le ci, le ça. Tu sais. Ça, on se le fait expliquer à tous les jours. Mais le capitalisme, j'ai l'impression que personne ne sait c'est quoi réellement et quels sont ses avantages.
Moi, j'essaie tout le temps d'être le plus simple possible dans ma manière d'expliquer les choses. Il y en a qui diront que c'est pas toujours un succès, mais j'essaie d'y aller tout le temps à la base, au plus fondamental de tout. Puis, mettons les deux systèmes en parallèle, comme ça va nous aider à comprendre. Pour moi, fondamentalement, puis si tu remontes jusqu'à la base de ce que c'est que le capitalisme et le communisme, la meilleure façon de les différencier l'un et l'autre, je le fais avec une expression de quatre mots, c'est que le communisme, c'est faire moins avec plus, puis le capitalisme, c'est faire plus avec moins.
Oui, mais ça,
c'est l'idée.
En entreprise, ça fait du sens. Hein?
C'est l'idée fondamentale, c'est celle-là. D'un côté, on est basé sur la propriété privée, puis d'un autre côté, on est basé sur la propriété idéalement collective. Donc, dans le communisme, c'est ça, la propriété. Parce que il y a plusieurs fondements au système capitaliste, mais le fondement, l'idée principale de celle-là, puis c'est pour ça que quand les communistes arrivent au pouvoir dans les pays comme en URSS, à Cuba, la première affaire qu'ils font, c'est des nationalisations et des expropriations. Pourquoi? Parce que la brique de base du capitalisme, c'est la propriété privée et le droit qui assure le respect de la propriété privée. Donc, ils abolissent la propriété privée, ils instaurent la propriété collective. Puis ça, ben, t'sais, ça correspond à deux visions de l'homme qui sont différentes qu'on peut avoir. C'est, ça nous ramène un peu à ce que je disais avec le philosophe libertarien. Dans la mentalité capitaliste, c'est l'individu, la personne humaine qui est le plus important. Dans le communisme, ce qui est le plus important, c'est la société. Puis il n'y a rien qui existe en dehors de la société. T'sais, ta valeur en tant qu'humain, elle existe uniquement que comme une pièce dans un casse-tête global qui est la société.
Donc, toi, en tant qu'humain, tu n'as aucune valeur.
Ben, c'est pour ça aussi que tu as vu toutes les atrocités que ces régimes-là ont pu commettre, parce que ici, dans les sociétés dites libérales ou capitalistes, ou appelons-les comme on veut, une vie humaine, souvent, c'est sacré.
Oui.
On essaie de sauver. T'sais, on le voit même des fois, on se demande jusqu'à quel point on est prêt à aller. T'sais, on voit dans les pays capitalistes, même quelqu'un qui vient de commettre un meurtre, il se fait tirer dessus par les policiers, puis tu vois les ambulanciers qui arrivent, puis ils essayent de le sauver. Alors que l'être humain, un peu normal, il regarde ça, il dit « Laisse-le donc crever, le gars, il vient de commettre un meurtre. »
Mais
la vie humaine, l'individu, c'est très important dans un système capitaliste parce que la propriété privée, l'individu, c'est la base de tout. Après ça, tout s'imbrique là-dessus. Une série d'individus forts, libres, qui prennent conscience de l'importance de leurs droits, tout ça, bien, c'est avec ça que tu construis justement une collectivité forte. Alors que dans l'autre approche, dans l'autre extrême inverse, bien, une vie humaine, si tu t'opposes à la collectivité, ta vie vaut rien. Puis on l'a vu, le traitement que les individus avaient dans des régimes comme le nazisme, dans des régimes comme le communisme soviétique. À Cuba, on a vu ce qu'ils faisaient. Du moment que tu t'opposes au régime, bien, ta vie, ta valeur n'a plus aucune importance parce que ce qui importe, c'est la société, la sauvegarde de la classe ouvrière ou de je ne sais plus quoi. Donc, si j'avais... parce que c'était ça ta question de base... Moi, la différence fondamentale entre les deux, c'est vraiment ça. C'est l'aspect de la propriété. Puis c'est l'aspect aussi, comme je l'ai dit, de celui qui a la propriété privée, son but, c'est d'améliorer sa vie de toutes les façons possibles. Donc, son but, c'est de faire plus, comme je l'ai dit, avec moins. Donc, prendre le minimum de ressources possibles pour générer un maximum de revenus.
Je t'arrête un peu, parce que tu fais beaucoup de parallèles entre les deux. C'est facile de faire un parallèle entre le communiste ou le socialiste et le capitaliste.
Mm-hmm.
Ce que je trouve exceptionnel dans ce que tu es en train de me dire là, c'est que qu'est-ce que quelqu'un qui est capitaliste, qui est en général catégorisé comme étant un extrême droite,
mm-hmm.
Ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est 100% le contraire de ce qui est présenté devant les médias. Parce que devant les médias, si tu es un capitaliste, tu te fous du monde.
Mm-hmm.
Mais de la façon que tu l'expliques, c'est si tu es un capitaliste, c'est toi, ta vie a réellement de la valeur. Puis la vie de lui a réellement de la valeur. Puis la vie de lui a réellement de la valeur. Puis chacun, sa vie a réellement de la valeur. Puis au niveau de l'entreprise, l'employé, si tu n'as pas d'employé, tu n'as pas de compagnie.
Mm-hmm.
Fait que c'est pas de chier sur les employés pour profiter d'eux autres. C'est de dire, toi, ta vie, elle a une valeur.
Ben,
moi, je suis prêt à te donner tant d'argent pour tes heures de travail à toi.
Mm-hmm.
Puis si tu me donnes ces heures de travail-là en échange de l'argent que je te donne, ben moi, je fais plus d'argent. Puis toi, tu es heureux parce que tu fais de l'argent aussi.
Ouais, ouais.
Puis si à un moment donné, tu es plus heureux, ben tu vas dire, moi, je m'en vais parce qu'il y a plein de capitalistes ici autour de moi. Puis ces capitalistes-là m'offrent plus. Fait que si tu veux me garder, c'est pas qu'est-ce que tu m'offres là présentement, c'est ça que moi je veux avoir. Fait que le capitaliste fait que autant l'employeur que l'employé est avantagé à un certain point.
Mais c'est sûr que, comme on l'a dit, il n'y a pas de régime parfait.
Il n'y en a pas de régime parfait.
Puis d'une certaine manière, sur Terre, il n'existe aucun système qu'on pourrait dire qui est à 100% capitaliste. Il n'existe aucun non plus système même la Corée du Nord. Est-ce que c'est à 100% communiste dans le sens qu'il n'y a aucun libre marché?
Probablement que c'est 100% communiste, puis on le voit que ça marche 0-0-0-0.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si tu allais sur le terrain là-bas, tu t'apercevrais qu'il y a probablement un genre d'économie souterraine où les gens font du commerce entre eux autres.
Ça, c'est sûr.
T'sais, donc, il y a forcément un genre de marché parallèle. Il y a un esprit probablement qui existe en parallèle de ça.
Quand moi, j'étais jeune, j'ai 40 ans. Là. Quand j'avais 10 ans, 12 ans, mes grands-parents parrainaient des Chinois. Imagine, les Chinois étaient pauvres. Là. C'était triste, la pauvreté en Chine, les pauvres Chinois.
Oui, ils achetaient des Chinois.
On leur envoyait de l'argent pour que les Chinois puissent manger, puis s'acheter des souliers, puis avoir des lunettes. Puis on s'en vire de bord. Puis les Chinois, à un moment donné, ils ont dit « OK, nous autres, on est communistes. C'est plus que communiste, c'est une dictature. »
Oui, c'est ça.
Puis les Chinois ont dit, on va utiliser un mode de économique capitaliste. On va donner la chance à nos citoyens de se partir des entreprises puis de devenir riches.
Oui, puis ils ont laissé des entreprises étrangères arriver tranquillement.
Puis la Chine s'enrichit incroyablement. C'est rendu la deuxième plus grande puissance économique mondiale.
Mm-hmm.
Aux États-Unis, il y a 100 millions de personnes qui font partie de la classe moyenne. En Chine, il y a 300 millions de personnes qui font partie de la classe moyenne.
Mm-hmm.
Donc, ils ont réellement utilisé un mode de vie. Puis ils s'enrichissent, leurs conditions s'améliorent, la médecine est mieux, l'âge de la mort, comment on appelle ça?
L'espérance de vie.
L'espérance de vie, exactement, s'améliore. Tout s'améliore, puis tout qu'est-ce qui s'améliore là vient vraiment du capitalisme. Puis où est-ce que moi je veux t'amener, puis je veux que tu continues à pousser et à frapper sur le même clou. Je veux pas de comparaison, je veux les avantages du capitalisme. Pourquoi être capitaliste? Qu'est-ce que ça apporte? T'sais, tout le monde égal, ça c'est socialiste, chacun une chance égale, ça c'est du capitalisme.
Bien, c'est un des points que j'avais en tête pendant que tu t'apportais quelques précisions, c'est que sans qu'on poursuive trop longuement dans la comparaison entre les deux systèmes, la différence fondamentale, puis c'est là-dedans que réside, moi, je pense, le principal avantage du système capitaliste, c'est que dans l'approche communiste, on va dire tout le monde doit être égal, tout le monde doit être égaux, c'est-à-dire. Et ça va se faire contre le droit. C'est-à-dire que s'il y a des riches, il va falloir abolir la richesse en la ponctionnant, en saisissant les héritages. Toutes les patentes que tu vois, qu'eux autres, ils appellent ça la redistribution de la richesse, mais grosso modo, c'est empêcher les gens qui ont accumulé du capital de bénéficier de leur propriété privée. Ça ramène au point de base que je te disais. Ils l'ont gagné, c'est à eux, c'est pas à toi. Il y a un gars sur Twitter qui parle souvent, qui s'appelle Nicolas, qui disait qu'il les appelle les amateurs de l'argent des autres. Moi, je trouve que c'est une formule que j'ai toujours bien aimée.
Puis, c'est vraiment bon aussi comme formule.
C'est une excellente formule. Puis le but de la société communiste, c'est d'amener l'égalité technique, tout le monde pareil, contre le droit, contre contre le respect fondamental de tout ce que les êtres humains ont gagné, ont vécu, tout ça.
C'est pas de l'utopie?
Bien, c'est de l'utopie. Puis le système capitaliste, son avantage par rapport à ça, c'est qu'eux, ils disent « Non, non, vous faites fausse route. Le but, c'est pas d'être égaux techniquement. » C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de riches, plus de pauvres, plus rien, que tout le monde soit pareil, mange la même nourriture, puis aille à l'école aux mêmes places. C'est que les gens soient légalement égaux. C'est ça, la vraie égalité. On appelle ça, au lieu de l'égalité réelle, on appelle ça l'égalité de droit. Ça veut dire que face à la loi, tous les individus ont les mêmes droits, le droit de leur respect, de la propriété privée, leur droit à leur intégrité physique et morale, le droit, toute la série de droits, c'est là-dessus que la société capitaliste est assise. Tu as la propriété privée, mais après ça, comme j'ai dit, tu as les droits qui viennent garantir ton intégrité, ton droit à la propriété. On parlait tout à l'heure de l'histoire des chemins de fer, du blocage des chemins de fer. Mais dans une société qui comprend ce que c'est réellement que la propriété privée, si tu viens sur mes terres, sur mon terrain à moi que j'ai acheté en bonne et due forme qui m'appartient, j'ai le droit de t'expulser de là, manu militari. C'est le respect de la propriété privée, c'est ça. Puis c'est normalement, dans un pays normal, on chiale souvent sur les Américains, le port d'armes, tout ça. Ça peut avoir son problème, puis je comprends qu'il y a eu des débordements. Mais la raison fondamentale pourquoi il y a ça dans la Constitution américaine, c'est pour le respect de la propriété privée. Comment tu peux faire respecter une propriété privée si tu n'as aucun moyen de la défendre?
Ouais.
C'est une vision qui peut paraître...
Qu'on peut te l'enlever comme bon nous semble pour comme le bien bon de la semble. Société.
Puis, tu sais, c'est un point que j'amène souvent avec les gens qui sont qui ont beaucoup de misère avec ces points-là. Je dis, regarde, je le sais qu'il y a de la violence, je le sais qu'il est arrivé des tueries, je comprends tout ça. Mais est-ce que tu penses sérieusement que Fidel Castro aurait fait 50 ans au pouvoir si les Cubains avaient été armés? Il y a ça aussi là-dedans parce qu'un des avantages, parce que c'est de ça qu'on parle, un des avantages du système capitaliste qui est fondé sur le respect du droit, c'est que si tu as un droit à défendre ta propriété privée et ton intégrité, jamais tu vas pouvoir être l'esclave d'un tyran ou de quelqu'un qui décide qui instrumentalise la politique à ses fins propres, ça, mais dans un système socialiste où individuellement tu n'existes pas, puis la seule affaire qui est importante, c'est la collectivité puis l'idéal socialiste, bien, on va te buter si tu t'opposes au régime, on va t'enfermer comme ça se fait dans tous les régimes socialistes à la grandeur de la planète. Là. Donc, dans un système capitaliste, moi, je pense que c'est uniquement là-dedans. Puis après, on peut jaser de est-ce que ça devrait être un capitalisme avec un peu plus de programme social, est-ce que si, est-ce que ça. Ça, c'est un débat qu'on peut avoir, mais le fondement même de la société, qu'il y ait un libre marché, qu'il y ait de l'initiative individuelle, parce que ton initiative, le moteur de pourquoi les gens ont le goût de faire quelque chose, pourquoi j'ai le goût de me partir une entreprise, pourquoi j'ai le goût d'avancer, pourquoi j'ai le goût de développer un produit pour le commercialiser, pourquoi je partirais, on a parlé dans un autre podcast de whisky, pourquoi j'essaierais de développer une ligne de bouteilles de whisky puis essayer de commercialiser ça, c'est que je veux faire grossir ma propriété privée puis construire un patrimoine pour améliorer ma condition, pour construire un patrimoine pour léguer aux générations futures. Mais si je te dis que tu vis dans un monde où le patrimoine, c'est le patrimoine collectif, puis quand tu vas mourir, le gouvernement va le voler au lieu de le donner à ta descendance pour combler un égard de richesse puis réparer des injustices sociales puis la juste part puis tout le langage moderne qu'on entend, bien, ça va être quoi ton initiative à aller plus loin? Tu n'auras aucun incitatif? Tu n'as aucun désir d'aller plus loin, aucun désir de te dépasser.
Tu le feras pas non plus.
Tu le feras pas non plus.
Parce que le développement en entreprise occasionne d'énormes sacrifices. Je peux pas me partir une compagnie et dire, moi, je travaille 25 heures par semaine. Ou 3 jours, 25 heures, la vie est belle, je me pars en entreprise, puis c'est fin de la discussion. Tu peux pas faire ça. Si tu te pars une entreprise, tu vas travailler 80-90 heures par semaine à tous les semaines.
Oui.
Tu vas avoir une blonde, une femme, ou un chum, là, peu importe.
Oui, oui.
Tu vas avoir un conjoint que lui va être conciliant, qui va dire, regarde, oui, travaille beaucoup, oui, développe ton entreprise, oui, fais qu'est-ce que tu veux. Tu as des sacrifices que tu vas faire. Tu ne verras pas tes enfants, tu ne verras pas ton conjoint.
Mm-hmm.
Tu vas avoir une vie que tu vas travailler, des carriéristes. On voit comment de femmes qui n'ont pas eu d'enfants parce qu'ils vont focusser sur leur carrière. Puis je ne vais pas... C'est un petit côté personnel, mais moi, je ne vais pas focusser sur ma carrière juste pour avoir de l'argent à moi. Moi, je vais focusser sur ma carrière pour bâtir un patrimoine pour mes enfants. Moi, je veux m'assurer que mes enfants ont besoin de rien, qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin d'avoir. Mm-hmm. Si je suis capable de monter une entreprise qui va me rendre multimillionnaire, c'est pas juste mes enfants qui manqueront de rien, c'est mes petits-enfants, puis mes arrière-petits-enfants, puis toutes les générations qui vont en suivre.
Oui.
Parce que moi, moi, personnellement, je vais faire des sacrifices de ma vie, je vais travailler trop fort, je vais me brûler, je vais être proche du burn-out, je vais donner tout ce que j'ai à donner parce que je veux donner une opportunité
mm-hmm.
à ma famille. Bien, ça, c'est peut-être socialiste. Ta famille, c'est le bien commun. T'sais, je veux m'assurer que ma famille est bien de ça. Mais le socialiste empêche ça. Le socialiste efface. Le socialiste va te tuer dans tes élans de vouloir faire plus. Parce que si tu fais plus, ça va être la société. Mais tout le fruit de ton travail, tous les sacrifices que toi tu fais, Toi, ta famille n'en bénéficiera pas. Ben. Fait que tranquillement, pas vite, tu vas écraser. Tu vas retourner dans ton coin, tu vas te dire, oh, ça sert, finalement, ça sert à rien, ce que je fais.
Ben oui, puis la pensée de certains socialistes modernes, si je peux dire, qui ça va même jusqu'à moi, j'avais un professeur d'université, j'en avais déjà parlé sur Radio Pirate, qui avait écrit un livre qui s'appelait « La fin de l'ordre économique », où il disait là-dedans qu'en dernière instance, les parents ne devraient même pas élever les enfants. Les enfants devraient être confisqués pour être élevés par l'État. Ce qui est un peu déjà d'ailleurs le cas avec les garderies gouvernementales, pour le bien commun, parce que c'est important, toujours au nom de belles valeurs, parce que c'est important de fournir à chaque enfant le même niveau d'éducation, puis lui donner les mêmes chances à tous. Puis, tu sais, c'est pas juste qu'un enfant soit né, c'est pas juste, mettons, qu'il y ait une fille, que son père, c'est Pierre-Carl Pelado, puis que l'autre, ce soit quelqu'un qui est sur l'aide sociale.
La fausse Annette.
Ouais, c'est...
Fait que, ils n'ont pas accès aux mêmes
ils ont pas accès aux mêmes choses
scolaires, ils n'ont pas accès aux mêmes...
Ouais. Ben, l'approche socialiste, c'est de dire on va réparer cette injustice-là en enlevant les gens de leurs conditions de vie naturelles puis en leur donnant une condition de vie artificielle qu'on va avoir décidée pour tout le monde.
Puis là, je te ramènerai de l'autre
puis
bord.
Puis l'autre bord...
Ton socialiste vient de te dire ça. On va réparer cette erreur-là.
On va réparer cette erreur.
Il n'y a pas d'erreur à réparer parce que dans un système capitaliste, parce que dans un système socialiste, on va essayer de réparer quelque chose.
C'est ça.
Dans un système capitaliste, si tu viens d'une famille de pauvres, mais tu es calissement brillant, ça c'est le meilleur mot que je peux dire, calissement brillant,
mm-hmm.
Ben tu vas sortir du lot. Tu vas avoir des opportunités, puis tu vas réussir à percer aussi.
Ben oui,
si tu n'es pas brillant, ben on a besoin de toi. Puis on n'a pas besoin de toi pour te fouetter puis t'obliger à faire de quoi. On a besoin de toi dans des... En anglais, ils appellent ça des trade jobs.
Mm-hmm.
Tu peux être un plombier, tu peux être un électricien, tu peux être un mécanicien, tu peux être un... Peu importe, mais on a besoin de toi. Parce que plus que notre société est riche, plus qu'ils ont besoin de toi, plus qu'on a besoin de toi, plus qu'on va te payer
oui.
pour faire qu'est-ce que tu peux faire.
Mais... Tu sais, quand tu prends des domaines qui c'est facile pour les gens de se le figurer, c'est plus facile à comprendre ce dont on parle depuis le début. Si tu prends, mettons, la musique, bien, la musique, si tu regardes au 20e siècle, là, c'est où qu'on a produit sur Terre les grands de ce monde qu'on connaît tous aujourd'hui, là, les Elvis, les Beatles, Metallica, nomme-les tous. Tous les artistes qui ont eu une incidence mondiale, est-ce que c'est un hasard s'ils sont tous soit anglais, soit américains? Il n'y a pas de hasard là-dedans. Là. La vie fait pas... Les Anglais n'ont pas dans leur sang quelque chose de particulier qui font qu'ils sont des meilleurs musiciens que les autres. Là. Ça serait une approche raciste dont on a parlé tout à l'heure.
Ouais.
Non, c'est qu'ils vivent dans un système où... Puis je l'apprenais en lisant les biographies de plusieurs musiciens britanniques qui expliquent que dans l'après-guerre... L'Angleterre est dévastée par la guerre avec l'Allemagne. Il y a des bombes partout. Ces gens-là voient leur père travailler dans des shops, puis des trucs de peinture, puis ils reviennent maganés. Puis à 50 ans, ils ont l'air d'avoir 78 ans. Bien, beaucoup de ces gens-là se sont dit, « Regarde, je vais apprendre à jouer de la guitare. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui est devenu... » Puis par le désir de l'ascension sociale...
« Je vais apprendre à jouer de la guitare. » Parce que la personne avant moi a fait des sacrifices.
Parce que la personne avant moi a fait des sacrifices.
Pour que moi, je réussisse à vivre puis dire, à place d'aller travailler à la mine ou dans l'usine, ou peu importe, moi, je vais faire de la musique. Ça, c'est une question d'opportunité.
Mais
ce n'est pas une société socialiste qui va donner cette opportunité.
Non, puis ces gens-là aussi ont vu que la structure des sociétés capitalistes libérales telles qu'on les connaît leur a permis d'avoir l'opportunité de s'élever. De dire, regarde, j'ai du talent. Si j'ai assez de talent, là, je vais pouvoir sortir de ma vie de merde dans un village anglais où tout ce que ma seule avenir, c'est d'aller faire de la soudure quelque part. Là. Fait que dans le fond, ils ont saisi cette chance-là, puis cette chance-là était inexistante dans les pays socialistes. Ce qui fait que, si tu regardes, là, c'est sûr qu'il y en a qui vont pouvoir trouver des exceptions, là. Mais à ma connaissance, l'Union soviétique et les pays d'Europe de l'Est qui étaient socialistes, il n'est sorti aucun artiste de là.
Aucun. Okay. On n'a pas beaucoup d'artistes vénézuéliens présents.
Il n'y a pas beaucoup de musiciens chinois dominants.
Ouais.
C'est drôle, hein? Ils sont 1,5 milliard aujourd'hui.
On n'a pas beaucoup de Québécois dominants.
Non, aussi, mais ça reste que malgré tout, à notre petite échelle, puis même malgré toutes les patentes qu'on a eues, on a réussi à avoir quelques...
Céline Dion.
Oui, Céline Dion. Puis, tu sais, je veux dire, certains groupes qui ont
mais,
eu...
Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Céline Dion, pour avoir un succès planétaire?
Elle chante en anglais.
Elle a déménagé aux États-Unis.
Oui, elle a déménagé. Mais c'est ça. Mais
elle a embrassé le système capitaliste.
Exactement. Mais c'est le... Tu sais, puis... J'entends des gens penser dans leur tête. Là, ils écoutent ça et ils se disent que dans le fond, on a eu le cerveau lavé et qu'on fait l'apologie de toutes ces affaires-là, mais qu'on n'a pas conscience de la personne qui n'a pas de chance et qui s'est ramassée sans abri. Mais il faut que vous sachiez que des gens qui n'ont pas eu de chance et qui sont morts dans l'anonymat total et qui ont eu leur vie gâchée et ruinée, là, il y en a eu un puis un autre dans les États socialistes. Là. Il y en a eu plus, plus qu'à leur tour. Puis tu sais, je regarde quelqu'un comme Alain Godette qui a des problèmes de santé grave, pardon. Puis malgré tout ce qu'on paye comme impôts, puis tout le système qu'on s'est donné, bien, il y a de la misère à rester chez eux, puis le gouvernement voudrait le placer dans un CHSLD avec des petits vieux qui se chient dessus. Donc, tu sais, les grandes leçons de la social-démocratie sur les gens sont mieux, les gens sont ci, les gens sont ça, moi, je regarde d'ailleurs dans certaines places comment ça marche. Puis t'sais, je me dis, des fois, on a des choses à apprendre de comment ça fonctionne ailleurs. Puis beaucoup, ça fait un peu peut-être un genre de wrap-up conclusif avec ce qu'on dit depuis le début. Le fait de voir la vie autrement, il y a jamais de mes profs d'université qui disaient le but, c'est « think outside the box ». C'est tout le monde est dans une boîte puis pense de la même manière. Toi, il faut que tu sortes de la boîte puis tu regardes ça. Il faut que tu vois, faut que tu apprennes à voir les choses d'une autre manière. Puis souvent, ça peut... Je pense que moi, j'ai beaucoup espoir que les choses vont changer à cause des plus jeunes, que comme tu me le disais dans une autre discussion, sont beaucoup plus techno, sont beaucoup plus au 21e siècle que l'étaient leurs frères plus vieux, que l'étaient leurs parents, leurs grands-parents. Mais aussi, c'est des gens qui vont avoir voyagé, puis c'est des gens qui vont avoir vu ailleurs. Tu sais, moi, il y a bien des choses que je croyais par rapport à notre société, que quand j'ai été voir ailleurs comment c'était, je me suis dit, ouais... Ouais, finalement, c'est n'importe quoi. Là.
Ouais.
C'est n'importe quoi.
Finalement, on est très bon. Il y a les deux côtés du discours sont là aussi.
Oui, exactement. C'est ça. Le but, c'est de se voir comme on est, de voir comment on peut s'améliorer. Puis à partir
mais
là...
On voit comme on est, on voit ce qu'on... Le but du podcast, puis où est-ce que je t'amène, c'est quels sont les avantages. Si je te donne une minute, je te dis, tu as une minute, raconte-moi les avantages juste les avantages. Qu'est-ce que le capitalisme peut nous apporter ou est-ce que le capitalisme peut nous amener en tant que société? Ben, juste ça. Mettons, je te donne une minute. Là.
Ben, en une minute, je te dirais qu'il va nous amener là où il a déjà commencé à nous amener, c'est-à-dire sortir de la pauvreté extrême, améliorer nos conditions de vie, favoriser le développement technologique, favoriser l'éducation pour tous, l'accès pour tous à tout ce qu'avant, on n'y avait pas accès. Tu fais juste penser à... C'est une anecdote qu'un pirate m'avait racontée, mais je la raconte souvent parce que moi, je trouve que ça illustre exactement le choix qu'on a à faire entre deux systèmes différents. Il m'avait dit, quand je vivais dans un pays socialiste, parce qu'ils sont immigrés de la République tchèque, si je ne me trompe pas, quand je voulais avoir une voiture... Là, ben, il fallait que je m'inscrive sur une liste, puis à un moment donné, le gouvernement m'appelait, puis il me disait « OK, ton char est prêt. » Puis là, tu arrives, il y a une espèce de minoune décollissée, puis c'est ça ton char. Tu n'as pas le droit de choisir, tu n'as pas le droit de rien faire. Ben, le capitalisme, ça nous amène la liberté, ça nous amène le choix, ça nous amène le respect de nos droits fondamentaux, puis ça nous amène...
Le respect d'autrui.
Le respect d'autrui, parce que chaque individu est ce qu'il y a de plus important. Tu sais, quand on a eu tout le débat alentour de la loi sur la laïcité et tout ça, ben c'est un bon exemple de comment un État, à un moment donné, considère qu'il est plus important, comme à la collectivité plus importante, que chacun des droits individuels. Après, on peut discuter de si on est pour et contre un code vestimentaire. La question, c'est pas ça. La question, c'est qu'à un moment donné, tu es dans un pays, tu as une constitution. Ben si la liberté de culte, c'est un droit fondamental, tu n'as pas le droit d'interdire aux gens de vivre comme ils veulent puis d'exercer ce droit-là comme ils veulent. Donc, l'avantage, moi, pour moi, c'est le plus fondamental, c'est la défense de ta propriété, de ton patrimoine que tu essaies de bâtir. Puis c'est surtout la meilleure manière qu'on a. C'est peut-être pas dans l'absolu la meilleure, mais jusqu'à présent, les êtres humains n'ont rien trouvé de mieux que ça. C'est la meilleure manière d'éradiquer ou de réduire au minimum la pauvreté, la misère. On le voit dans tous les pays sur Terre qui ont embrassé ce système-là. Puis toutes les fois où on a décidé de s'en écarter, les révolutions socialo-communistes un peu partout dans le monde, il y a toujours eu un recul en arrière, plus de mortalité infantile, l'espérance de vie qui recule dans le sens que les gens vivent de moins en moins vieux, la mortalité de toutes sortes de maladies qui réapparaissent à cause de la pauvreté, la désorganisation. Je veux dire, c'est aussi, je pourrais peut-être conclure là-dessus, c'est le système qui correspond selon moi le plus à la nature fondamentale de l'homme, qui est d'être un individu libre, qui pose ses choix, puis qui essaie d'améliorer son sort. Finalement, c'est comme ça qu'on est fait fondamentalement les hommes, puis on en a la preuve quand tu es dans un système où tout est organisé, sans même être d'un pays socialiste, mais quand tu es dans une structure organisée comme un syndicat ou une corporation, tout ça, ben, les gens se sentent étouffés, ils sentent que leur potentiel n'est pas utilisé à leur meilleure, à leur juste valeur, puis finalement, ils deviennent démoralisés, puis ils deviennent apathiques, puis déprimés. Donc, je pense que la meilleure manière de sortir de cette espèce d'apathie-là, puis de collectivement se redresser, c'est justement de valoriser la liberté, puis justement toutes les valeurs fondamentales. Parce qu'souvent, on présente le capitalisme comme un système sans morale, sans foi ni loi, la loi du plus fort, tout. Mais c'est pas faux à 100%, mais ce qui est faux là-dedans, c'est qu'on oublie que c'est le système qui respecte les droits individuels. Puis je pense que c'est ça le fondamental.
Le système du droit individuel. Je trouve ça drôle parce que plus que tu me parles du capitalisme, plus que je me rends compte que le débat gauche-droite est complètement fauné. Plus que je me rends compte que finalement, c'est juste un mot associé à une façon de penser. Tu peux être vraiment un capitaliste de gauche.
Oui.
Parce que c'est la valeur individuelle. Tu veux que tes employés soient bien. Tu veux que tout le monde gagne. Mais en même temps, c'est pas vrai que j'ai 16 employés et qu'ils vont gagner tous le même salaire. J'en ai un qui est meilleur. J'en ai un qui dirige. J'en ai un qui fait. Puis chacun a sa valeur. Parce qu'à un certain point, il y en a qui sont remplaçables et il y en a qui sont irremplaçables.
Mm-hmm.
Dans un système socialiste, que tu sois remplaçable ou irremplaçable, vous allez tous faire le même salaire.
Ouais.
Fait que quand tu deviens irremplaçable, c'est très frustrant. Quand tu es extrêmement remplaçable, c'est très bon. Mais si tu es vraiment remplaçable, puis on donne le même salaire à tout le monde, en réalité, tu vas juste démotiver ton équipe au complet.
Ben, je pense qu'on l'a tous vécu quand on était au secondaire ou ceux qui ont été au cégep ou à l'université, là, les fameux travaux d'équipe. Ben, un système capitaliste, c'est quelqu'un à cette petite échelle-là qui fait son travail individuellement. Puis s'il a le meilleur travail, il va avoir le meilleur résultat. Le système socialiste, puis de plus en plus, c'est comme pas un hasard non plus que dans les écoles, il y a de plus en plus de travaux d'équipe puis jamais de travaux individuels. C'est que tu as toujours quelqu'un qui tire pour les autres, puis les autres s'accrochent à lui, puis finalement bénéficie des efforts de l'autre sans avoir fait aucun effort. Puis au final, le travail est à peu près raté, mais tout le monde a 70 alors qu'il y en a un là-dedans qui mérite 90 puis les deux autres 50.
Ouais.
C'est une belle manière de se l'imaginer. Puis tu sais, quelqu'un peut être motivé pour faire ça pendant un travail, deux, trois années de sa vie peut-être, mais à une échelle longue, l'être humain est fait d'une manière que s'il ne voit pas un avantage pour lui, il n'avancera pas. Puis c'est ce qui explique pourquoi tous ces régimes-là ont fini par s'effondrer. Tu peux vanter à l'ouvrier qui est dans une usine soviétique de dire « Ah, mais ça va être pour ton bien, puis quand la société va être arrivée, tout le monde va être bien, puis il n'y aura plus de pauvreté, puis il n'y aura plus ça. » Mais quand ça fait 30 ans qu'il travaille dans une usine qui appartient au gouvernement, il se dit « Ouais, mais finalement, au moins dans l'ancien système, j'aurais pu augmenter de salaire. »
Ouais. Donc, en résumé, le capitalisme, c'est chance égale, liberté individuelle, la valeur de l'individu. Puis le socialisme, c'est le collectif.
Exact.
Qu'est-ce que la société va bénéficier de qu'est-ce que toi, tu peux faire?
Exact.
C'était vraiment intéressant, Frank. Ça fait longtemps que je veux expliquer le capitalisme à plusieurs personnes. Je trouve que c'est quelque chose qui nous manque. Dans notre don, hein, parce que tu fais un podcast de dédommiseur. Je vais te donner l'occasion justement là, de faire ta plug pour que pour inviter les gens à aller écouter qu'est-ce que tu as à dire.
Ben c'est ça, les gens que j'ai pu intéresser puis qui me connaissaient pas, ben c'est ça, sur à peu près toutes les plateformes, Spotify, Podcast Addict, ça, vous pouvez trouver mon podcast qui s'appelle juste le Dédomiseur, vous allez le trouver. Je parle d'à peu près, là, je suis rendu à une cinquantaine avancée de podcasts. On parle de toutes sortes de sujets. Des fois, c'est politique. Des fois, c'est plus léger. Des fois, c'est des discussions avec des invités. Donc, ceux qui s'intéressent, on se donne rendez-vous là-dessus. Puis ceux qui veulent m'écrire aussi peuvent m'écrire au Frank à commercialradiopirate.com.
Si on veut t'avoir, si on veut te follower sur Twitter, Facebook, est-ce qu'on a quelque chose?
Même chose, Frank Dédomiseur sur Twitter, vous pouvez me trouver. Je suis assez facile à trouver.
Merci beaucoup pour ta présence, Frank. C'est extrêmement apprécié. Quand aussi longtemps que tu veux, ça tente les podcasts de garage, t'es le bienvenu. On apprécie ta présence. Merci.
Parfait, merci à toi.
Salut tout le monde, ici Denis Labelle ou Denis The Beautiful pour ceux qui écoutent Radio Pirate. Et ça me fait plaisir d'encourager les podcasts de garage. J'encourage aussi tous les entrepreneurs ou les gens à la retraite comme moi pour aider à produire du bon contenu. Bonne soirée tout le monde.
Les podcasts de garage sont fiers de vous présenter Action VR. Action VR, votre spécialiste des roulottes et fifth wheel cargo neufs et usagés au Québec. Notre succursale Action VR est établie à Saint-Nicolas, à seulement 20 minutes de Lévis. Depuis plus de 15 ans, elle offre à sa clientèle une approche et un service vraiment personnalisés dans une ambiance conviviale. Les professionnels de son équipe chevronnée connaissent absolument tout sur les VR. Ils sont donc les mieux placés pour vous guider et vous aider à trouver le VR qui convient vraiment à vos besoins parmi une vaste sélection de modèles de roulotte et de fifth wheel en stock. Depuis ses débuts, Action VR de Saint-Nicolas n'a qu'un seul et unique objectif, vous proposer des VR de grande qualité, saison après saison, en plus de vous offrir un service professionnel, courtois et chaleureux en tout temps. Action VR offre un vaste éventail de marques telles que Durango, Sportsman, Escape, Cyclone, Wolfpack, Venom, Raptor, Torque et plusieurs autres. Cette succursale n'est pas qu'un simple détaillant de VR. Ce concessionnaire unique en son genre est le spécialiste des roulottes et fifth wheel cargo neufs et usagés au Québec. Il est donc en mesure de répondre à tous vos besoins en matière de VR.